Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir, Julien Cellier, Céline Landreau.
18h40, on défait le monde effectivement dans RTL Soir. Céline Landreau, Laurent Tessier, Nerissa Emani, la bande au complet, l'info avec un autre regard jusqu'à 19h. Le menu Céline.
Ce soir, on défait le monde, infiltre le monde feutré de la diplomatie. Les Européens expulsent de nombreux diplomates russes et pas forcément pour leur fonction officielle. Ambassade ni d'espions, vous allez tout comprendre. Au menu également un fish and chips, yep. Des Kinder, oui c'est très équilibré. Et c'est Elon Musk, le nouveau boss de Twitter qui régale. On défait le monde la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
La France expulse une trentaine de diplomates russes. Et
35 diplomates russes.
En clair, des espions.
Nouvelle sanction contre Moscou. Comme de nombreux pays européens, la France expulse aujourd'hui des diplomates russes au nom de la sécurité. Et ça, dans l'équipe dont défait le monde, ça nous a interpellés.
Qui sont ces diplomates russes devenus indésirables? Qu'est-ce que signifient ces représailles? Et pourquoi parle-t-on d'espionnage?
Alors pour tout comprendre, on s'est tourné vers le spécialiste de l'espionnage, Rémi Koffer, l'auteur des grandes affaires des services secrets aux éditions Perrin. Et d'abord, quand on parle diplomate, sachez qu'on parle aussi espion.
Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'officiers de renseignement. Vous avez ceux qui sont clandestins, qui opèrent soit sous leur propre identité, soit sous des identités fictives. Et puis vous avez ceux qui opèrent à partir des ambassades et qui sont couverts par le statut diplomatique. Quand on expulse des diplomates pour manifester son courroux, on choisit de préférence ceux qui sont des officiers de renseignement, c'est-à-dire qui travaillent pour les services secrets du pays concerné. Alors chez les Russes, la part est très importante, c'est facilement du tiers.
Un tiers des diplomates russes sont en fait des espions. Mais on sait lesquels ils sont identifiés?
La plupart du temps, oui, repérés chez nous par la DGSI. Et si vous vous demandez, comme nous, pourquoi, alors qu'on le sait, on se laisse espionner, la réponse est assez simple.
Parce qu'on a les nôtres qui travaillent chez eux aussi, si vous voulez. Chacun se surveille. Si on expulse tous les représentants des services secrets étrangers chez nous, eh bien, dans les pays étrangers, on expulsera tous nos représentants des services secrets.
Et c'est pour ça, comme l'explique Rémi Koffer, que les expulsions sont plus ou moins médiatisées. En général, en regardant le nombre de diplomates mis dehors, eh bien, vous pouvez deviner l'intensité de la crise.
Alors les expulsions peuvent être discrètes. Par exemple, fin 2017, vous avez un responsable important des services russes qui a été expulsé en douce. Mais en 2018, vous vous rappelez peut-être de cette tentative d'empoisonnement de Sergueï Skripal à Salisbury en Angleterre. Ça fait beaucoup de bruit. Les pays occidentaux ont expulsé. L'Angleterre a expulsé 29 diplomates sur un total de 58 ou 59 diplomates en poste à l'époque. Donc, c'est fonction du degré de tension, si vous voulez, de la situation internationale. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même plus que tendu. 35, ça fait beaucoup quand même. Donc, on montre qu'on est extrêmement en colère, ce faisant.
Ouais, donc là, on est en train d'envoyer un message fort. Mais ces fameux diplomates, enfin ces espions-là, qui reprennent l'allée simple pour Moscou, on a une idée de ce qu'ils faisaient?
Alors, quand on parle d'agents de renseignement russes sous couverture diplomatique, on pense beaucoup au GRU.
Alors le GRU, c'est le service de renseignement d'abord de l'armée rouge, à partir de 42 et maintenant de l'armée russe, qui est effectivement devenu particulièrement offensif. Quand il y a eu cette tentative d'assassinat de Skripal et de sa fille, eh bien, c'était le GRU qui avait essayé de les empoisonner. Donc ce service est considéré comme très agressif. Il est aussi agressif sur le net, une manière de faire de la cyberguerre. Ça s'intéresse tout particulièrement à l'OTAN, qui est évidemment une des cibles privilégiées.
Un service qui perd aujourd'hui, vous l'avez compris, de nombreux agents implantés dans toute l'Europe. Moscou ne devrait pas tarder à annoncer des sanctions similaires contre les diplomates espions européens.
Ouais, très nombreux, puisque près de 200 diplomates russes ont été expulsés d'Europe en seulement 48 heures.
RTL, sous les radars.
Allez, on défait comme tous les soirs, l'info passée sous les radars.
Alors c'est vrai, depuis le début du conflit en Ukraine, on vous a beaucoup parlé pénurie, blé, gaz, pétrole. Mais cette pénurie-là, vraiment, on ne l'avait pas vu venir, Laurent. Au Royaume-Uni, on s'inquiète pour le plat national, le fish and chips.
Oh my God.
Ah oui, là, attendez, on parle d'un symbole de la gastronomie populaire britannique. Vous savez, c'est ce filet de poisson pané frit et accompagné de frites. Vous ajoutez une sauce tartare, c'est un régal. Ça, c'est le petit conseil maison. Eh bien, la guerre en Ukraine risque de faire couler des milliers de vendeurs de fish and chips chez les sujets de Sa Majesté.
À ce point-là ?
Oui, parce que le plat est attaqué de tous les côtés. Première difficulté, entre 30 et 40% du poisson utilisé pour les fish and chips vient de Russie, notamment le cabillaud. Mais le conflit en Ukraine, vous imaginez, a changé la donne. Londres a imposé des droits de douane de 35% contre le poisson blanc pour sanctionner le pays. Second problème, l'Ukraine, c'est le premier exportateur mondial d'huile de tournesol utilisée pour la friture.
Ah oui.
Et là, la pénurie est évidemment présente.
Bon, l'huile, d'accord, mais revenons aux poissons. Les Britanniques, ils pêchent.
Oui, mais ils pêchent surtout des maquereaux, des harengs ou du merlan bleu. Et moins ce poisson blanc, si caractéristique du fish and chips.
On ne l'avait pas franchement vu venir, effectivement, la pénurie de fish and chips. Bien vu, Laurent. Petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Première info pour briller au dîner. Juste après ça, vous allez dîner avec des hologrammes. Ça coûte moins cher.
On défait le monde. Julien Cellier, Céline Landreau. L'info pour briller dans On défait le monde.
Et oui, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Il est 18h48. Vous êtes peut-être en cuisine. Voici la première info pour briller au dîner.
Dernier jour de campagne présidentielle, dernier meeting. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon sera dans 12 villes à la fois grâce à son hologramme. Mais Laurent, vous, c'est le pionnier de l'hologramme politique que vous vouliez saluer.
Oui, et il s'appelle Narendra Modi. Ce nom ne vous dit peut-être rien d'ailleurs.
Il dirige l'Inde.
Le premier ministre de l'Inde, bien vu Julien, a été le premier en politique à se lancer dans un discours de campagne en hologramme. C'était en 2012. Un message alors enregistré en amont et diffusé ensuite dans une cinquantaine d'endroits simultanément. Et comme il est devenu premier ministre en 2014, on peut dire que l'expérience lui a bien réussi. Alors l'hologramme est devenu sa marque de fabrique. Modi a renouvelé ce type de discours en 2013 et 2014.
La différence ce soir, c'est que Jean-Luc Mélenchon est en direct. Il n'enregistre pas 180 techniciens pour que le meeting soit diffusé dans 12 endroits différents. C'est quand même quelque chose.
On défait le monde. Julien Cellier, Céline Landreau.
Alors, winner ou loser du jour, c'est Nerissa et Mani, l'arbitre. Ce soir, vous avez choisi, cher Nerissa, un gagnant. Un monsieur très 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 riche, qui est absolument partout en ce moment.
Oui, coup de chapeau. Ce soir, un homme qui ne cesse de faire parler de lui. Elon Musk, le milliardaire américain, qui a une façon bien particulière de régler ses conflits, Nerissa.
Oui, Elon Musk, très actif sur le réseau social Twitter, avec qui les relations n'ont pas toujours été si simples.
Ce tweet signé Elon Musk qui provoque la polémique.
De grosses critiques sur Twitter de la part d'Elon Musk.
Il a exprimé quelques frustrations sur la manière dont la liberté d'expression était gérée.
Elon Musk qui dézingue Twitter, qui fait même un sondage pour savoir si la liberté d'expression y est respectée. Et résultat de son enquête, non, selon ses abonnés. Le milliardaire accuse même Twitter de miner la démocratie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Elon Musk, quand il n'aime pas trop une entreprise ? Il investit.
Elon Musk devient le principal actionnaire de Twitter.
Le milliardaire a pris 9,2% du capital du réseau social.
C'est qui le patron ?
C'est Elon Musk, le nouveau patron. Il est entré aujourd'hui au conseil d'administration de Twitter pour la modique somme de 3 milliards de dollars. Une broutille pour l'homme le plus riche du monde, qui rajoute donc une nouvelle corde à son arc. Après la conquête de l'espace avec ses fusées SpaceX, les voitures Tesla du futur, le robot humanoïde, le lance-flammes, une question se pose.
Est-il un illuminé ? Est-il dangereux ? Le monde tout à coup s'interroge.
Et les journalistes surtout s'interrogent.
Qu'est-ce que Elon Musk a derrière la tête avec ce rachat ?
Il a certainement une idée derrière la tête.
Il faut vraiment que tout le monde arrête de comprendre ce que veut ce mec. Il est imprévisible.
Imprévisible, ça c'est sûr. Et même le principal intéressé confirme.
Je sais que je dis ou que j'écris des choses étranges, mais c'est la façon dont fonctionne mon cerveau.
Un cerveau qui fonctionne bien, très bien même, quand il s'agit de... Oui, d'argent. La preuve depuis le rachat.
L'action Twitter s'est envolée à Wall Street, assurant déjà une belle plus-value pour l'homme d'affaires.
Plus 25% en bourse dès l'annonce du rachat hier. Le visionnaire homme d'affaires Elon Musk a décidément toujours une longueur d'avance.
Bon, personne dans ce studio n'avait d'action Twitter. Bah
non, mais surtout, moi, j'avais pas 3 milliards pour investir, sinon vous l'auriez fait.
Surtout
sinon,
des abonnés, hein.
Oui, j'aurais peut-être pensé.
Il est visionnaire, mais il est surtout quand même très, 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 très riche.
Très riche.
Allez, petite pause dans un instant. Nouvelle info pour briller au dîner avec les Kinder Surprise. Vous restez à l'écoute. À tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h55, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Voici une nouvelle info pour briller au dîner, même si elle ne donne pas très faim.
Oui, on vous parle depuis hier de ces produits Kinder, rappelés pour des suspicions de salmonelle, en France, en Belgique ou au Royaume-Uni. Mais il y a un pays où on ne pourra pas rappeler de Kinder Surprise, c'est aux États-Unis, Nerissa.
Oui, parce que là-bas, les œufs surprises sont strictement interdits à la vente et à l'importation. La faute à une loi de 1938, elle stipule qu'il est interdit de placer un objet dans un produit comestible. Voilà, une mesure préventive pour que les enfants ne s'étouffent pas avec le jouet. Mais du coup, pour ne pas faire de jaloux, en 2017, Ferrero a sorti un variant du Kinder Surprise aux États-Unis, un œuf en chocolat, mais avec la surprise à côté.
Bon. Aucun intérêt.
Oui, c'est pas un
Je vais laisser Peggy voter parce que je crois qu'elle a été particulièrement bluffée par cette info pour briller, c'est ça?
Oui, bien sûr. Mais il faut que je dise oui, c'est ça?
Je vous ai vu les yeux écarquillés derrière le masque.
Mais oui, c'est vrai en plus.
Allez, merci, Péry, le point pour Nerissa ce soir.
C'est orienté tout ça.
Ou rêve. Marche ou rêve, tous les soirs, on vous donne la parole et on met en avant de jolis projets, les vôtres.
Avec ce soir, le beau projet, en effet, de plusieurs étudiants en STAPS, c'est la filière sportive de la fac, qui ont décidé donc de partager leur amour des sports nautiques avec ceux que l'eau a traumatisé, Laurent.
Oui, quatre étudiants ont monté à Rennes le projet Aquarius. Ils aident de jeunes migrants traumatisés par leur traversée de la Méditerranée à vaincre cette peur de l'eau et à soulager leur souffrance. Bonsoir, Enja.
Bonsoir à vous.
Comment s'organisent vos séances au quotidien ?
Alors, ces jeunes ont vécu l'enfer. Pour certains, ils ont pu vivre l'enfer. Pour d'autres, ça a pu être une traversée qui a pu être quand même complexe et des souvenirs qui peuvent être douloureux. Nos séances s'organisent de la manière suivante, avec un accompagnement psychologique tout le long du projet, avec 8 à 10 séances de natation dans un premier temps, avec des groupes de parole entre les séances de natation. À une fois qu'on a dépassé cette barrière de la piscine et de l'apprentissage de la natation, l'idée est de partir sur la découverte des activités nautiques extérieures avec diverses activités comme le paddle, comme le kayak, le canoë, et de retrouver la notion de plaisir dans l'eau et montrer à ces jeunes que l'eau et l'environnement aquatique peut être un fabuleux environnement. Voilà.
Est-ce que ces jeunes n'ont plus peur de l'eau au bout de combien de séances ?
Pour ceux qui ont fait toutes les séances ou ceux qui ont fait la majorité, on voit vraiment de vrais progrès. On voit que les jeunes ont pu évoquer avec la psychologue aussi un rapport totalement différent à l'eau, qu'ils arrivaient à avoir gagné en aisance aquatique, qu'ils savaient aller où ils n'avaient pas pied, qu'ils arrivaient au moins à se débrouiller et se sauver. Et c'est aussi l'important d'éviter, au vu du nombre de noyades, chaque année qu'on a sur le sol français. C'était aussi le but du projet.
On imagine que ce sont aussi des rencontres qui doivent être très très forte avec des gens qui ont des parcours de vie complètement incroyables.
Oui, tout à fait, hein. C'est des rencontres. Alors moi, je suis en parallèle aussi éducateur dans une MEX sur la région centre et plus particulièrement en Eure-et-Loire, donc j'en côtoie énormément aussi des jeunes dans cette situation-là. Après, oui, c'est des situations où les jeunes ont vu des parcours de vie qui sont quand même très compliqués, un parcours migratoire qui a pu être très long et éprouvant, et on en apprend en fait tous les jours, et dans l'échange, au niveau des cultures, etc., c'est vraiment enrichissant.
Juste une question, Enja, ces personnes que vous aidez, vous les rencontrez comment ? C'est via des associations ?
Ces personnes qu'on aide, en fait, lors de notre recherche, on les a contactées, c'est un pôle MNA, le pôle MNA des Débats Ouges, ici, sur Rennes, qui est une structure qui accueille exclusivement des mineurs non accompagnés. Et donc, en se mettant en lien avec eux, avec le chef de service de la structure, on a pu créer ce projet avec cette structure-là. L'idée pour l'année prochaine, c'est qu'on a trouvé une deuxième structure sur Rennes, par exemple. Et l'idée après, c'est de pouvoir trouver des maisons d'enfants à caractère social, des MEX ou des pôles MNA partout en France pouvant accueillir ces projets.
Et il y a l'idée d'ouvrir ces ateliers aux adultes ensuite ?
Il peut y avoir cette idée. Des demandeurs d'asile, par exemple, on a eu des sollicitations également. Alors, pour l'instant, on prend le temps aussi de mobiliser, de l'affiner pour qu'on puisse aussi vraiment rendre plus efficient ce projet. Mais ça pourrait être une idée de proposer aux demandeurs d'asile, par exemple, qui sont également dans cette situation.
Bien, merci, Enja, pour votre action et votre aide à tous ces jeunes migrants. Bonne soirée à vous.
Eh ben, merci à vous. Bonne soirée.
Merci, bravo et bonne soirée, Enja. Et merci, bravo et bonne soirée à vous, les amis. Dans Défait le Monde, on se retrouve demain. 18h40, nouvelles aventures dans RTL Soir. À demain, les amis. Le temps avant le journal de 19h. Le temps pour demain. Peggy, ça donne quoi ? Je crois que Céline a voulu dire quelque chose,
oui,
mais le micro était
fermé.
Volontairement fermé. Qu'est-ce que vous
Pourquoi
vouliez dire, Céline ?
Non, je pensais que vous alliez l'accueillir comme vous nous avez salué. Merci, bravo, bonne soirée, Peggy.
Allez, au revoir, c'est ça. À demain.
Allez, Peggy.
Allez, on y va, une perturbation du sud-ouest.
N'écoutez pas Céline, elle nous perturbe.
Oui, mais
en plus, on prend du retard.
Et voilà, mais taisez-vous.
Je vous demande de vous taire.
Du sud-ouest au nord-est, un temps perturbé avec des averses jusqu'aux frontières de l'est de l'après-midi. Et le sud-est va échapper au mauvais temps, mais uniquement le matin parce que, évidemment, les pluies vont arriver, sauf sur le pourtour méditerranéen. Maintenant, sur le nord-ouest, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance entre nuages, éclaircies, averses. Des averses qui seront surtout marquées l'après-midi entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Bretagne, avec beaucoup de vent. Voilà pour le ciel. Côté température, elles vont remonter le matin, de rares gelées, donc on oublie les gelées. Et l'après-midi, de saison, en tout cas proche des valeurs, de 11 à 15 degrés jusqu'à 17 près de la Méditerranée.
Merci Peggy. Si vous le voulez bien, je reprends la parole.
Évidemment.
On va même la partager avec Audrey Arnaud. Parce qu'il est 19h et c'est l'heure du journal. Bonne soirée avec RTL.